Horizon Tech by ENI, le podcast de ceux qui font la tech d'aujourd'hui et feront la tech de demain. Si vous aimez la tech, vous aimerez les histoires de nos invités. Qu'ils soient chefs d'entreprise, étudiants, formateurs ou auteurs, ce podcast vous permettra de découvrir pourquoi ils et elles sont devenus des acteurs de la tech. Chaque mardi, un nouvel épisode sera disponible sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Ce podcast est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et à le partager sur vos réseaux sociaux. Horizon Tech by ENI. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Horizon Tech by ENI. Mon invité aujourd'hui, Romain Rissouan. Bonjour Romain.
Bonjour Eric.
Alors Romain, tu es non seulement auteur aux éditions ENI, on aura peut-être un peu l'occasion d'en reparler, et tu es globalement consultant formateur en transformation digitale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? On va parler après de ChatGPT et des LLM. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours depuis tes débuts dans cette transformation digitale jusqu'à aujourd'hui qui t'amène à utiliser, on en a parlé un peu en préparant cet épisode, qui t'amène à utiliser beaucoup d'IA, ChatGPT et d'autres. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui?
Bien sûr, Eric. Alors, j'ai deux casquettes. La première, c'est celle de consultant formateur en transformation digitale. C'est une casquette qui s'est musclée au travers des années, après différents travaux, différentes expériences de conseils et de formation sur tous les concepts de la transfo digitale, à savoir la bureautique telle que nous la connaissons aujourd'hui, collaborative, mais celle qui existait également à l'époque, les réseaux sociaux, le référencement naturel, sponsorisé, les travaux sur les CRM et les ERP. En plus de cette casquette de consultant formateur, j'ai également une casquette d'auteur, entre autres chez ENI, mais j'ai surtout une casquette de chef d'entreprise, directeur fondateur d'un organisme de formation qui se veut être data-driven, c'est-à-dire centré sur la data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est piloté non pas par moi, non pas par d'autres personnes de cette organisation, mais parce que la data nous dit de faire. Et pour que ça fonctionne, évidemment, il a bien fallu, il y a une dizaine d'années maintenant, que nous intégrions une forme d'intelligence artificielle, même si celle-ci n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui.
C'est ça, c'est aujourd'hui, on a l'impression que l'intelligence artificielle, elle est arrivée avec ChatGPT, alors qu'en fait, il y a une forme d'intelligence artificielle qui était déjà utilisée depuis longtemps. Tu peux nous expliquer comment, il y a une dizaine d'années, à quoi ça correspondait cette intelligence artificielle que tu as commencé à mettre en place pour faire le data-driven de ton entreprise?
Effectivement, on a en fait un terme qui s'appelle intelligence artificielle qui englobe trois sous-termes. Le premier, c'est l'intelligence artificielle, celle que nous avons connue à l'époque des jeux d'échecs, celle où Henri Gasparov essayait de battre l'ordinateur. Voilà, c'est les premières formes d'intelligence artificielle qui se matérialisent par un « si, alors, sinon ». Voilà, si le pion bouge de telle case à telle case, alors il faudra jouer telle case ou telle case pour gagner la partie. Ensuite, un autre sous-concept de l'intelligence artificielle est apparu, qu'on appelle le « machine learning ». Donc le machine learning, c'est un concept de l'intelligence artificielle qui tend à enrichir l'intelligence artificielle que nous connaissons par de nouveaux éléments. On va rendre l'intelligence artificielle apprenante, ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire la machine apprend. Alors dans les faits, on peut donner un exemple assez trivial. Par exemple, la machine à gérer vos spams. En fait, votre boîte mail, elle gère les spams selon plein de paramètres. Selon si vous recevez plusieurs fois le même mail d'une même personne, eh bien, votre boîte mail va automatiquement ranger ou pas un mail dans les spams. C'est une forme de machine learning. Et puis, nous avons le dernier concept qui est d'une certaine manière très à la mode, mais dont le terme est assez peu utilisé, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est très concrètement le Terminator que nous avons découvert dans le film Terminator, c'est-à-dire un robot qui apprend de par les interactions auxquelles il fait face au jour le jour. Et donc, il y a encore 4 ans de cela, on parlait d'un outil qui s'appelait « This person does not exist ». C'était un site internet qui était basé sur une technologie à qui on avait soumis 5000 visages de personnes qui étaient volontaires. Et en fait, l'algorithme avait compris comment on fabriquait des visages. Et donc, quand on allait sur « This person does not exist », grâce au principe de deep learning, eh bien, on avait des visages qui étaient fabriqués automatiquement, mais des visages, ces visages évidemment n'existaient pas, ils étaient fabriqués de toutes pièces par intelligence artificielle.
Et aujourd'hui, on arrive à ce qu'on appelle les LLM. Tu vas peut-être pouvoir, pour commencer, nous donner une définition de ce qu'on appelle les LLM, avec tout ce qu'il y a derrière les intelligences artificielles itératives ou autres. On peut parfois s'y perdre. C'est vrai que la plus connue aujourd'hui est ChatGPT, mais il y en a d'autres, dont une française qui s'appelle Mistral, etc. Donc, est-ce que tu peux nous faire un point aujourd'hui sur ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle dans notre quotidien tel qu'on peut l'avoir dans les médias?
Alors effectivement, depuis, on va dire, plusieurs mois, presque plus d'un an maintenant, le terme intelligence artificielle a pris un sens totalement différent. En fait, le fameux deep learning dont je parlais il y a quelques instants s'est démocratisé au travers d'un outil mondialement connu désormais qui s'appelle ChatGPT et qui finalement illustre une espèce de standardisation des outils de type deep learning. Alors concrètement, c'est quoi? Donc, le LLM, ça veut dire le Large Language Model. Bon, concrètement, ça veut dire une vulgarisation du principe de deep learning. Alors, les outils les plus connus, évidemment, en la matière, ça va être évidemment ChatGPT, mais également Midjourney, qui va être un outil phare pour générer des images. Ensuite, en matière de vidéo, à titre introductif, on peut parler par exemple de Runway, qui donc va nous permettre de générer des vidéos. Donc, à cet instant, j'ai envie de dire, on peut résumer le principe du deep learning, donc l'intelligence artificielle que nous connaissons, le principe de deep learning, par un accès centré sur une technologie dite de GAN. Alors, le GAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire Generative Adversarial Network. En fait, ce sont des réseaux de neurones antagonistes. Concrètement, en fait, c'est des mini-cerveaux de réflexion qui vont avoir pour rôle de générer des choses nouvelles, non seulement avec une dimension spécialiste, mais également avec une dimension aléatoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je demande à un outil de type LLM de me générer un visage, eh bien, il y a plein de petits cerveaux. Il y en a un qui va être dédié à fabriquer des oreilles, l'autre qui va être dédié à fabriquer un nez, d'autres dédiés à fabriquer des yeux. Ça, c'est le principe de neurones dédiés. Et puis on a le principe d'antagoniste, donc le adversarial dans l'histoire, qui en fait fait que à chaque fois ça va jamais être la même chose. Le nez va être différent, les oreilles vont être différentes, les yeux vont être différents, et ça va donner un côté humain à la création, puisque le côté humain que nous connaissons, c'est le côté hasardeux, surprenant. Quand je te dis bonjour, tu me réponds bonjour, mais tu peux peut-être me répondre salut. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va lui poser 10 fois la même question, on n'aura jamais la même réponse, et c'est ce qui lui donne un côté surprenant, alors qu'en réalité, tu le sais très bien, elle n'est pas du tout intelligente, cette intelligence.
Elle a juste été programmée d'une manière qui paraît la rendre intelligente et elle continue d'apprendre, hein, parce que tu parlais de Midjourney où il y a DALL-E aussi qui fabrique des images. Et c'est vrai qu'au début, on pouvait voir des images où les mains avaient 6 doigts ou des choses comme ça, où elle n'en avait que 3. Et au fur et à mesure, ben, le programme va apprendre et va se dire, ben non, concrètement, une main a normalement 5 doigts, quoi.
J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire par une faculté qu'on a tous en tant que personne désabusée ou décontenancée par ce qui se passe, c'est notre faculté que l'on a à pointer ce qui ne va pas dans cette intelligence artificielle. Ce phénomène-là, il est humain, il n'est pas que français, il est humain. On appelle ça la vallée de l'étrange. Si on va sur Google et qu'on tape vallée de l'étrange, vous verrez une définition sur Wikipédia de ce qu'il en est. En fait, c'est cette faculté que nous avons tous, lorsque nous voyons une scène a priori normale, à identifier ce qui est surprenant dans celle-ci. Si un jour, je rencontre quelqu'un dans la rue qui a par exemple 3 bras, eh bien mon regard va naturellement se poser vers ce troisième bras. Et je vais être obsédé par ce troisième bras sans me soucier de comment fonctionne cette personne, est-ce qu'elle est sympa, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est généreuse, est-ce qu'elle est aidante. Je vais être concentré sur ce troisième bras. C'est ce principe de la vallée de l'étrange. Et donc, au-delà de la peur que beaucoup de gens ont face à l'intelligence artificielle, pour de nombreuses raisons que nous comprenons, la perte d'emploi, le fait que finalement l'homme va être remplacé par des machines, eh bien, nous avons surtout, naturellement, ce phénomène de vallée de l'étrange.
Est-ce que ça veut dire quelque part que, je ne vais pas dire qu'il faut laisser l'intelligence artificielle faire des erreurs, parce que, pas forcément, il y a des humains qui naissent avec 4 doigts, peut-être d'autres avec 6. Oui, c'est étrange, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ce que tu viens d'expliquer, cette envie d'avoir une intelligence artificielle parfaite, qui ne fait pas de faute, qui ne fait pas d'erreur, qui donne toujours la bonne chose? Est-ce que quelque part, il ne faut pas non plus... L'intelligence artificielle, elle est comme nous, elle fait aussi des erreurs, on fait des erreurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser un petit peu d'erreur dans cette intelligence artificielle?
Eh bien, c'est le principe du réseau antagoniste, le côté hasardeux, qui en fait s'oppose avec le principe de constance. Vous pouvez faire un exercice assez simple. Vous allez sur Midjourney, vous chargez une photo de vous-même et vous allez demander à Midjourney de vous faire vous-même, puisque vous lui avez donné une photo, en train de jouer au foot ou en train de courir dans la forêt, peu importe. Ce que vous allez constater, c'est qu'il va faire un espèce d'ersatz de vous-même. Ce n'est pas vous-même, il n'a pas vraiment le même nez, pas vraiment la même bouche, mais c'est un peu vous-même parce qu'il a à peu près votre couleur de cheveux et à peu près le t-shirt que vous aviez sur la photo. Et ça, à ce moment-là, les gens disent bah, « en fait, c'est décevant, en mid-journée, je vais demander de faire un dupliquet de moi en train de jouer au foot ou de courir dans la forêt, mais il n'a pas été capable de le faire. » Eh bien, en fait, la question est simplement de savoir quel niveau de constance vous voulez donner à l'outil. Si vous prenez un exemple opposé quelque peu à Midjourney qui s'appelle Vana, que je recommande, qui est un outil extraordinaire. Cet outil a été bridé par une constance dédiée sur la photo de portrait. C'est-à-dire qu'on lui a dit, écoute, toi, Vana, tu ne vas pas générer des photos de gens qui courent dans la forêt, tu vas générer des photos de portrait, rien que ça, et tu ne fais que ça. Vous allez lui fournir 10 photos de vous, il va générer des photos de vous, et vous allez être surpris par cette constance. C'est-à-dire qu'il va être capable de vous faire exactement vous-même dans une posture que vous avez souhaitée. Il y aura quelques ratés, bien entendu, mais globalement, la question est simplement de savoir si vous voulez de la constance, donc du vana, ou si vous voulez de l'originalité, de la créativité, qu'on n'hésite pas à sortir du cadre, c'est-à-dire un mid-journée.
Un peu comme on fait une photo d'Iris et on regarde le tableau des iris de Van Gogh, la photo est plus nette, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche dans le tableau. Ça dépend tout de l'originalité qu'on veut mettre derrière tout ça.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple. Donc, quand je donne des formations, je leur montre mon portfolio de mes meilleures photos générées par Vana. Et il y a des gens qui sont surpris, agréablement, qui disent « Waouh, c'est impressionnant !» Et il y en a une autre partie qui vire dans la vallée de l'étrange et qui me dit, notamment ma femme, qui me dit « Je suis désolé Romain, mais cette photo, dans toutes ces photos que tu me montres, ce n'est pas toi. » Et là, je lui dis, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est que ces photos soient fidèles à moi-même? Est-ce que je recherche à avoir exactement quelqu'un qui ressemble à exactement qui je suis? Et à mon avis, on n'y arrivera pas, ou alors on arrivera à avoir des choses finalement peu intéressantes, puisqu'il n'y a pas de créativité. Ou alors, est-ce qu'on cherche à avoir finalement une autre facette de nous-mêmes encore inexplorée, avec une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle posture, une nouvelle façon d'être? Et là, potentiellement, moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve d'intéressant, puisque pour l'anecdote, je voulais une photo de moi devant le Mont Blanc, il fallait pour cela que je sollicite mon photographe un jour de belles lumières, de belles éclaircies devant le Mont Blanc, il fallait payer les frais de déplacement, etc. Finalement, avec Vana, générer une photo de moi-même qui n'est pas exactement moi-même devant le Mont Blanc, mais ça me va très très bien pour mettre ça sur mon blog ou mon site internet, parce que de toute façon, aujourd'hui, on sait bien que la photo que vous avez sur votre profil Facebook ou votre profil Teams ou je ne sais quoi, quand on vous voit dans la vraie vie, qu'elle soit générée par l'intelligence artificielle ou non, ça ressemble jamais à ce que vous avez.
On essaye toujours de s'améliorer un petit peu, de se rendre un petit peu plus présentable, et c'est vrai que les outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider dans ce sens. Tu le disais en introduction, tu as aussi, en plus de cette casquette de consultant formateur, cette casquette de chef d'entrepreneur qui utilise l'IA. Alors au début avec des « si, alors si, sinon, etc. » Aujourd'hui, de quelle manière tu as intégré ces nouveaux outils d'IA dans ton quotidien de chef d'entreprise, et comment ils participent, tu l'as dit, au data-driven de ton entreprise? Comment ça fonctionne concrètement?
Alors, on peut peut-être parler effectivement du premier volet d'intelligence artificielle que nous avions avant de parler du nouveau volet. Alors, le premier volet d'intelligence artificielle que nous utilisions, c'était un principe de « si, alors sinon », de la forme suivante. Par exemple, on allait créer un programme de formation par principe de, de mimétisme dans une catégorie analogue. C'est-à-dire que pour faire simple, j'ai un programme de formation Excel, j'ai un programme de formation pour un sujet qui est Excel. Excel étant rangé dans une catégorie qui est tableur, eh bien, pour avoir un programme de formation sur un sujet analogue à Excel que pourrait être Google Sheet, eh bien, je mets en application mon algorithme pour dire, ben, en fait, tu dis la même chose que ce que tu avais dit sur Excel, sauf que tu le dis sur Google Sheet, tu changes un petit peu les mots, et bon an mal an, on va avoir quelque chose d'à peu près équivalent à ce qu'on avait sur Excel, mais pour Google Sheet. C'est un principe de, si ce sujet est dans la catégorie des tableurs et qu'il contient des cellules dans un format web, alors faire un programme de formation qui ressemblera à ça. Ça, c'est notre ancienne façon de créer des programmes de formation. Avec la nouvelle méthode, eh bien, il y a deux choses qui changent. La première, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre dans la catégorie tableur le fameux Google Sheet, dans mon exemple. On dit simplement à ChatGPT, première question, est-ce que tu connais Google Sheet? Très important, sinon on peut avoir des surprises. Et s'il dit oui, c'est un outil de type tableur, alors à ce moment-là, on dit, bah vas-y, crée-moi un programme de formation selon tel format. Tu devras avoir des modules, sous-modules, tu devras préciser la durée, etc. Donc ça, c'est un premier, la première utilisation qu'on a eue en interne de ChatGPT, en l'occurrence, c'était celle-là. On a dit, bon, bah, on va finalement gagner du temps dans notre production de programmes de formation, on ne va plus passer du temps nous-mêmes à écrire les programmes de formation, on va demander à ChatGPT de les faire nous-mêmes. Bon, j'imagine que beaucoup de nos confrères ont commencé à faire ce genre de choses. Par contre, ce qu'on a fait, qui est beaucoup plus cocasse ou en tout cas courageux, c'est que en fait, on a commencé à se dire, mais finalement, ça sert à quoi de demander au client, bah, finalement, il veut une formation sur Excel, niveau 1, finalement, pour peut-être 3 jours, et ensuite de demander à ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer le champ du niveau du nombre de jours. Il va dire, j'ai une formation Excel niveau nombre de jours. Et puis, ça va aller interroger un back-office par un système dit d'API ChatGPT. ChatGPT va restituer le programme de formation en direct aux yeux du client. Et le client va pouvoir valider ou contre-valider ou invalider le programme de formation qui lui est fait par l'intelligence artificielle. S'il le valide, ça va rentrer dans notre base de données. Et cette base de données va être enrichi par le travail qu'a produit ChatGPT pour du coup faire perdurer cette production et pas simplement d'avoir utilisé ponctuellement ChatGPT, on va carrément enrichir notre base de données avec cette information-là.
C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai envie de former des commerciaux ou peu importe, des collaborateurs à Excel, de ce que tu m'expliques et de ce que j'ai compris, je vais sur votre site et je peux dire, bah voilà, moi ce que j'ai envie, c'est juste des TCD. Mes collaborateurs, ils savent créer des formules, ils savent créer ça. Et en direct, l'intelligence artificielle telle que vous l'avez implémentée avec les différentes API va pouvoir me sortir un devis avec un programme de formation qui dit, bah voilà, suite à votre demande en une matinée, faire des TCD pour des utilisateurs qui sont plutôt de niveau avancé Excel, voilà ce que je vous propose. Mais demain, je viens avec une autre demande pour une autre population de mes collaborateurs. Eh bien, en direct, ça va pouvoir générer autre chose.
C'est exactement ça. Donc, il faut bien comprendre les enjeux dans ce genre de situation. Vous avez un premier enjeu de risque sur est-ce que ce que je livre à mon client, ça tient la route. Alors, je vais donner un très bon mauvais exemple. On a un logiciel qui s'appelle Eagle, qui est un logiciel qui, en anglais, Eagle, ça veut dire aigle, qui est un logiciel qui permet de faire des dessins électroniques. Eh bien, si tu ne mets pas en place certains dispositifs de sécurité, tu demandes à ChatGPT de te produire un programme de formation sur Eagle, il va te produire un programme de formation sur comment aller chercher des aigles dans les arbres. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point, c'est quel niveau de risque tu es prêt à prendre et quel dispositif tu mets en place pour te couvrir par rapport à ce risque-là. Donc, il y a différentes techniques, mais bon. Le deuxième point, il faut bien le comprendre, c'est que les commerciaux, nous, on n'appelle pas ça des commerciaux, on appelle ça des conseillers formation, qui, eux, ont l'habitude de deviser le client par rapport à qui il est, son pouvoir d'achat, etc. Eh bien, tu leur coupes l'herbe sous le pied, puisqu'en fait, finalement, ils n'ont plus la maîtrise sur le prix de vente. C'est ChatGPT qui va le déterminer à ta place, quoi. Donc là, c'est un vrai sujet de transformation digitale, en fait, hein, parce que tu as deux possibilités. Soit tu fais une discussion collégiale avec tout le monde et puis tu dis, bon alors, Comment on peut essayer de faire en sorte d'allier les points de vue de chacun, ChatGPT d'un côté et vous, commerciaux, de l'autre. Et puis, tu as une autre façon de faire, qui est en l'occurrence un peu la mienne, il faut le dire, je m'en cache pas, qui est de dire de toute façon, ça va toujours se finir de la même manière, c'est toujours le digital qui aura raison dans ces histoires. Donc, autant se mettre tout de suite au diapason de ce que l'intelligence artificielle nous dicte, c'est-à-dire le principe du devis automatique. Après, on gérera les écueils, on gérera les problèmes qui s'associent à ça, mais en l'occurrence, il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Ne commençons pas à être réfractaires par rapport à cette technologie qui, en fait, en l'occurrence, est très bénéfique pour nous, parce que le gain dans la création de devis est phénoménal. Créer un devis, c'est toujours au moins 2 à 3 jours de réflexion, de travail, etc., pour au final avoir potentiellement un client qui va être désabusé par le temps qu'il a mis pour recevoir un devis qui en fait lui fait comprendre qu'il n'a pas le budget. Voilà, là, il y a un... Donc, la conclusion, pour finir, c'est 1. Intégrer la technologie pour que ça fonctionne, faire en sorte que le client soit en direct en front avec la technologie, et 3. Eh bien, se soustraire d'un travail qu'on avait l'habitude de faire, sur lequel on était content d'avoir une maîtrise, pour finalement laisser prise totalement au client qui va en fait... Enfin, c'est l'intelligence artificielle qui traite avec le client directement.
Et combien de temps vous avez mis pour implémenter ça dans votre circuit commercial et faire confiance à ChatGPT? Parce que on le voit aujourd'hui, ChatGPT, ça paraît simple. On l'ouvre, on pose une question, on a une réponse, et puis on se dit, ah, c'est fantastique. Et on se rend compte, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut d'abord déjà lui poser des questions. Est-ce que tu connais Google Sheet, par exemple? Il y a les prompts, il y a les GPTs aujourd'hui. Ça vous a pris combien de temps pour mettre ça en place, et puis se dire, OK, notre système, il est fiable, peut-être. On va retourner dans cette fameuse vallée. Il va peut-être faire des erreurs de temps en temps, mais globalement, il nous fait gagner plus de temps qu'il nous ferait perdre de l'argent. Et donc, on lui fait confiance. Ça a pris quoi en termes d'investissement homme ou d'argent?
Pour répondre immédiatement à cette question, chez nous, ça nous a pris 2 semaines. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est super important, ta question, c'est qu'en fait, comme toute transfo digitale, tu as des prédispositions organisationnelles à pouvoir accueillir une technologie. On va prendre un exemple simple, un peu caricatural, mais si depuis 20 ans, là, tu as une seule personne qui fait les devis chez vous, il s'appelle, je ne sais pas moi, Robert, et en fait, il a toujours tout fait avec son Excel et puis son esprit, bah forcément, tu es dans un contexte qui ne te prédispose pas facilement à intégrer un ChatGPT, parce que bah, Robert, il va pas forcément être content, parce qu'il travaille sur Excel, il travaille pas avec un système de gestion de données sur lequel on va pouvoir se pluguer, etc. Si en revanche, ce qui est notre cas, depuis 10 ans, tu travailles avec un principe de base de données et que tu rationalises tout et que tu sais travailler avec des API, c'est-à-dire des systèmes qui s'interconnectent entre eux, bah forcément pour nous, c'est qu'un choix stratégique, c'est simplement de savoir si on pousse les tâches qui étaient dans la roadmap pour savoir si on la met en priorité sur les 2 prochaines semaines. Après, quand même, il y a un point qui est très propre à mon profil d'entrepreneur qui n'est pas le profil qu'on pourrait avoir dans une entreprise beaucoup plus grosse, c'est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Moi, je fais partie de ces gens-là qui sont. Je suis prêt, d'une certaine façon, à tout perdre, en fait, à chaque fois. Parce que je pars du principe que c'est le data-driven, justement, qui nous guide. Peut-être que je me trompe, mais la technologie, en général, elle nous pousse toujours vers la même trajectoire. C'est elle qui finit par avoir raison. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, le problème, c'est quel niveau de risque tu es prêt à prendre. Est-ce que tu es prêt à tout casser, comme par exemple tes prix? Si demain, tu fais des prix tu casses tous tes prix parce qu'en fait, c'est l'intelligence artificielle qui les fait mal. Bah là, pour le coup, là, ce n'est pas qu'une question d'être en capacité technologique d'intégrer le ChatGPT, c'est aussi une question d'avoir une forme de courage, même si je ne dis pas ça pour montrer que j'ai du courage, je dis surtout ça pour dire qu'il faut être un peu fougueux ou téméraire d'une certaine façon aussi.
De toute façon, on le voit, l'IA intègre de nombreux domaines, pas seulement le domaine commercial, technique. On voit en sport, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui vont arriver, de data qui déboule sur tous les sports. Donc, quelque part, il va falloir s'adapter plus ou moins vite, comme tu l'as dit, savoir prendre des risques ou pas. Tu disais en préparant cet épisode, il y a aussi deux axes sur lesquels vous avez vraiment intégré l'IA, c'était le nettoyage des bases de données et l'évaluation des apprenants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus également sur ces deux thèmes et comment tu l'utilises au quotidien?
Oui, alors j'ai même oublié un troisième thème dont je te reparlerai un peu plus tard, c'est sur la création de notre catalogue. Alors en fait, concrètement, en fait, on a quelque chose qui est beaucoup plus dur à mettre en place, effectivement, c'est le nettoyage de notre base de données. Alors on va prendre un exemple très simple. Imaginons par exemple que tu as une base de données avec par exemple 100 000 clients. Dedans, tu as des sociétés qui n'existent plus, des sociétés qui existent toujours, des sociétés qui sont en redressement, des gens qui sont partis, qui ne font plus partie de la société. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu dois, enfin, à la base, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu prends ta souris et ton clavier, tu vas sur Internet et puis tu vas chercher si ces sociétés existent toujours ou pas. Au pire, tu achètes une base de données des sociétés actives et tu vas, avec des technologies, on va dire un peu classiques, interconnecter le système des sociétés actives avec ton ERP pour essayer de récupérer les sociétés toujours actives ou non. Puis après, il faudra encore qu'à la main, tu ailles chercher si les personnes existent ou non. Bon, et bien finalement, en fait, ce qui se passe avec ChatGPT ou les LLM en général, ben en fait, tu vas pouvoir lui demander de faire ce boulot. Tu vas pouvoir par exemple lui demander de dire bah voilà quelle société est la filiale de quelle société. Donc en fait nous concrètement ce qu'on fait au quotidien c'est pas sur les sociétés en l'occurrence, c'est plutôt sur la base de données produits. En fait on va tout simplement avoir une intelligence artificielle qui va aller scanner ce que fait la concurrence, épurer ce que fait la concurrence pour on va dire pas faire des copier-coller, parce que si la concurrence a créé une Clio Zoé modèle 4, bah nous on ne peut pas mettre une Clio modèle 4 dans notre base de données, ça ce serait évidemment du plagiat. Donc en fait ce qu'on va le faire, c'est qu'on va lui demander de nous dire que la Clio c'est en fait une berline 5 portes. Donc en fait on va automatiquement avoir un ChatGPT qui va nous rajouter une berline 5 portes dans notre base de données. Et puis à partir de là, on va lui demander quelles sont les différentes options qu'on peut constater à la concurrence sur cette berline 5 portes. Donc on va avoir des options de couleur, on va avoir des options du nombre de portes, on va avoir des options de plein de trucs. Et du coup, on va avoir non seulement un produit générique, avec toute une batterie d'options qui se trouve déjà sur Internet. Et donc du coup, dans notre cas à nous, on a la création d'un produit générique, plus toutes les options associées. Et donc du coup, après, on peut créer des produits sur mesure. Dans notre avec après on peut carrément lui demander aussi de créer un nom de produit pour essayer d'enrober un petit peu le produit, parce que si on dit bah on fait une formation Excel niveau 1 sur 3 jours, bah c'est pas très sexy. Si par contre on dit découvrez les bases de Excel en 3 jours, bon bah là déjà ça change un petit peu le format. Donc voilà, un travail sur la base de données, donc ça c'est très intéressant, donc qui va historiquement nous avec l'intelligence artificielle que l'on avait en premier lieu. On se basait sur des données Google. En fait, on demandait à Google de nous dire bah, quels étaient les mots-clés les plus tapés. Là, maintenant, on va carrément demander à ChatGPT de nous faire un benchmark et d'épurer ce qu'il va trouver sur le benchmark pour faire en sorte qu'on se retrouve avec des produits génériques, avec des options. On a également, comme tu en parlais, donc, pour l'évaluation des acquis des participants. Donc, en fait, historiquement, il y a un truc qui est très pénible en matière de formation, c'est d'évaluer les acquis des participants. Pourquoi c'est pénible? Parce qu'en fait, on a une formation qui normalement doit suivre un programme. Dans le programme, on est censé voir les chapitres A, B, C. Seulement, ce qui se passe, c'est que les apprenants dans la salle, eh bien, ils sont peut-être pas forcément intéressés par les chapitres A, B et C, mais peut-être juste par le chapitre A. Pour autant, la formation vendue porte sur les chapitres A, B, C. Donc finalement, si tu délivres un contenu d'évaluation générique et standard, tu vas te retrouver avec un apprenant qui va être, on va dire, défaillant, puisqu'en fait, il va très bien connaître le module A, mais comme il s'en fichait complètement du module B et C et que le formateur s'est adapté à sa formation, eh bien finalement, il va avoir 30% de réussite parce que c'était l'évaluation portée sur le module A, B, C, mais en fait, lui, il ne connaît que le module A. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à ChatGPT, la formation portée sur les points A, B, C. Cher formateur, sur quoi avez-vous formé au final A, B, C? Eh bien, le formateur va peut-être dire bah, finalement on a appuyé plus fortement le module A et les points B et C on ne les a pas appuyés. Et donc là on va pouvoir dire à ChatGPT bah, produis-nous un questionnaire d'évaluation sur le chapitre A. Et du coup le questionnaire est déjà prêt, on n'a pas besoin de faire une réflexion, on va dire de midi à 14h sur comment on va structurer ce questionnaire d'évaluation des acquis.
C'est vraiment, comme tu l'expliques, un game changer pour la formation, hein, entre gagner du temps, être plus individualisé dans à la fois la conception des programmes de formation et également dans le suivi des apprenants. Pour conclure, qu'est-ce que tu vois comme grosses améliorations dans dans les semaines, dans les mois qui viennent, à la fois générique, mais à la fois dans toi, l'utilisation que tu vas pouvoir faire de l'IA. Est-ce que tu as déjà d'autres pistes de réflexion?
Alors, moi, j'ai, je, dans les, je vais te donner au moins trois points d'avenir. Le premier, à mon avis, ça nous pend au nez dans les prochains mois. C'est qu'une question de mois. C'est que, avec des outils comme Teams, avec des outils comme Zoom, tu vas pouvoir parler dans n'importe quelle langue en instantané et recevoir en retour quelqu'un qui te parle dans une autre langue, dans la langue que tu souhaites. Ce qui fait qu'on aura théoriquement plus besoin d'apprendre à parler une certaine langue. Donc je réillustre ce que je viens de dire. Aujourd'hui, j'ai besoin d'apprendre à parler l'anglais pour parler l'anglais. Aujourd'hui, si vous avez déjà un petit peu regardé ce qui se passe dans l'actualité, il y a un outil qui s'appelle AgeN qui te permet de parler dans n'importe quelle langue en vidéo. Voilà. Le seul truc, c'est que AgeN te produit une vidéo 3 minutes après que tu aies parlé. Eh bien, en fait, là, c'est qu'une question de délai. On va avoir cette vidéo dans une autre langue en instantané. Donc, du coup, si je veux parler avec un collègue italien, au lieu de lui parler en face à face, on va se mettre sur Teams, même si on est en face à face, on va prendre notre smartphone. Et du coup, chacun va avoir en restitution dans son oreille et pourquoi pas en visuel, son interlocuteur qui parle dans une autre langue. Ça, moi, j'en mets ma main à couper. D'ici 12 mois, on aura ça. Je ne serai pas surpris. Concernant les évolutions toujours un petit peu génériques à venir, ce qui va se passer, donc deuxième point, c'est une spécialisation des outils du LLM, exactement comme l'outil dont je parlais tout à l'heure, qui permet de générer des images par l'intelligence artificielle. J'ai perdu le nom d'ailleurs, j'en parlais tout à
Vana.
l'heure. Vana, merci. Ouais, ça prouve que tu écoutes bien. Vana, par exemple, typiquement, c'est un très bon exemple. On prend un outil et on lui dit. Tu fais du LLM, mais par contre, ton job, c'est celui-ci. Voici les contraintes et tu te concentres sur faire ceci, cela. Et du coup, on va avoir des choses beaucoup plus satisfaisantes que ce qu'on observe sur du Midjourney. Poussé à plus grande échelle, donc à l'échelle du grand public, cette technologie-là donc, va prendre la forme de LLM spécialisé. Donc, c'est le principe de verticalité. Et puis, on va avoir également, à l'échelle d'entreprise, le développement du coup de LLM spécialisé pour l'entreprise. Donc, en fait, cette spécialisation va peut-être de l'ordre du grand public pour le portrait, mais peut-être de l'ordre de l'entreprise par rapport à ses contraintes à elle. Donc là, par exemple, je faisais une intervention il n'y a pas très longtemps chez un grand constructeur automobile. Et eux, en fait, avant que j'intervienne, je regardais leur slide, ils disaient, voilà, il faut qu'on mette dans notre roadmap la création d'un outil d'intelligence artificielle pour notre structure. Pour des raisons évidemment de confidentialité, parce qu'ils ne peuvent pas travailler sur du ChatGPT directement. Donc, ils ont besoin de recréer sur la base d'un Mistral ou d'un ChatGPT un LLM en interne. Et le troisième volet qui nous concerne, en l'occurrence plus particulièrement, c'est en fait la transposition de tout ce que je t'ai dit dans d'autres industries. C'est-à-dire que partant du principe que maintenant, finalement, le data-driven, finalement, pour nous, c'est un acquis. C'est-à-dire que ça a très bien fonctionné, ça a montré ses résultats dans le secteur de la formation. Eh bien, allons l'essayer dans des secteurs périphériques, comme le secteur du conseil, comme le secteur de l'assistance en ingénierie, des choses comme ça. Et voyons ce qu'on peut faire dans la création, from scratch, de produits, de sites internet, de produits, de services. Et voyons ce que l'intelligence artificielle peut être capable de nous créer comme nouvelles opportunités de marché sur des secteurs qu'on ne connaît pas forcément, mais sur lesquels on a quand même des ressources humaines derrière pour assumer. Les écarts entre notre connaissance et ce que nous amène la data.
Écoute, c'est fascinant. En tout cas, moi, je trouve cela fascinant, tout ce que tu nous promets pour les mois, les années qui viennent. Je vais te proposer, bien peut-être dans un an, de revenir, voir si on peut faire cette discussion dans une autre langue, et puis voir si ce que tu nous as dit sur cette traduction instantanée, à la fois visuelle et auditive, fonctionnera, de ce qui serait phénoménal, mais pas surprenant, avec les progrès que fait l'IA dans tous les domaines aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour tous ces éclairages, pour toutes ces explications sur le data-driven, sur l'IA, les LLM. C'était vraiment extraordinaire. Merci pour ça, Romain.
Merci Eric, merci pour ce partage.
Et bien sûr, je mettrai des liens vers tes réseaux pour que les gens puissent te suivre, peut-être te poser des questions et puis travailler avec toi et voir un petit peu si tes prédictions sont bonnes. Et à tous les auditeurs, bien sûr, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Horizon Tech by ENI. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode d'Horizon Tech by ENI. Nous vous remercions pour votre écoute et si vous appréciez cet épisode ou ce podcast en général, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel invité, une nouvelle histoire extraordinaire dans Horizon Tech by ENI.